c'est soit le bac initial, fait qu'il y a un bac en rentrant comme adulte, ou sinon le deck bac. Dans le fond, tu fais ta technique de 3 ans, puis ensuite un bac de 2 ans. Fait que ça donne ton titre d'infirmière clinicienne. Moi, c'est ce que j'ai fait comme parcours. Là.
OK. Donc là, toi, tu es infirmière clinicienne. Mm-hmm. Tu continues quand même d'étudier pour devenir infirmière praticienne.
Oui, exactement. Fait que là, présentement, je fais mes études à la maîtrise comme pour devenir infirmière praticienne.
OK. Mm. Puis quand tu es infirmière praticienne, qu'est-ce que tu peux faire de différent qu'une infirmière clinicienne ne fait pas?
Dans le fond, infirmière praticienne, là, au Québec, on les appelle souvent les super infirmières. Donc, dans le fond, ça va être vraiment les infirmières là, qui vont suivre des patients. Il y a plusieurs sortes aussi, là, mais disons, moi, c'est la première ligne là, que je suis en train de faire ma formation dans. Donc, c'est vraiment de suivre des patients, de faire des ordonnances, vraiment comme infirmière de famille, là, si on veut. Là, fait que des soins primaires. Ouais. Okay.
Mais est-ce que tu pourrais être affiliée, je ne sais pas moi, à des pharmacies pour des renouvellements de pilules, mettons, pour des dames?
Ben là, présentement, c'est sûr que les pharmaciens, leur rôle a été vraiment élargi. Donc, moi, je ne connais pas les infirmières en pharmacie, infirmières praticiennes, mais je sais qu'il y a des infirmières cliniciennes en pharmacie ou infirmières même techniciennes. Mais ça va être plutôt là, comme dans une clinique, là, disons un GMF, l'infirmière praticienne va prendre en charge des patients, soins aux bébés, soins à la famille, renouvellement de médicaments, suivi de son diabète, des choses comme ça.
Ça, ça donne un solide coup de main aux médecins.
Ben, c'est sûr que présentement, avec le problème d'accessibilité aux médecins de famille, c'est sûr que ça, c'est une des pistes de solution, là, selon moi, là, pour aider les gens à avoir accès à des soins primaires.
Puis au Québec, là, pas ailleurs au Canada, mais au Québec, est-ce que les infirmières praticiennes sont bien perçues par les médecins québécois? Ou vous êtes comme un peu perçus comme des gens qui vont peut-être leur enlever un chiffre d'affaires? Parce que les médecins au Québec, c'est des travailleurs autonomes, là.
Oui, là, je voudrais pas dire qu'on va leur enlever un chiffre d'affaires, mais c'est sûr qu'on voit beaucoup de réticence. C'est sûr qu'au Québec, on est en retard si on se compare, disons, à l'Ontario. Mm-hmm. Oui, il y a certaines réticences, sais-tu? Ben, parce que c'est sûr que là, encore aujourd'hui, on n'est pas complètement indépendante. Il y a beaucoup de changements, c'est en évolution là, constante, là, même à l'heure où est-ce qu'on se parle. Mais tu sais, encore aujourd'hui, là, les médecins doivent être affiliés aux infirmières praticiennes. Donc là, eux, ça leur demande certaines responsabilités d'avoir l'infirmière praticienne sous leur aile, si on veut. Puis, fait que là, il y a une réticence. Est-ce que c'est seulement les médecins? Est-ce que c'est le réseau qui n'est pas prêt?
Ouais.
On est en retard au
Peut-être qu'avec le temps, les médecins vont se rendre compte à quel point vous êtes un plus pour eux dans leur travail parce qu'ils peuvent se concentrer sur des trucs qui sont peut-être un peu plus spécialisés, mettons. Des cas un peu plus lourds.
Ouais, mais c'est oui, non, effectivement. C'est sûr que tout ça, c'est nouveau. Puis c'est les infirmières aussi, c'est pas coupé au couteau, là, tu sais, c'est pas comme on a un nouveau rôle. Il faut encore développer un peu le rôle de l'infirmière praticienne, trouver notre place là-dedans pour le public, pour les médecins, pour tout le monde, dans le fond. Là.
OK. Mm. Puis infirmière auxiliaire, ça, c'est quoi, ça?
Infirmière auxiliaire, dans le fond, ça va être une infirmière qui va avoir fait une formation professionnelle, là. C'est une formation de 2 ans.
OK.
Souvent, là, ça va être plus l'infirmière qui va faire les techniques, qui va prendre les signes vitaux. Là, dans les hôpitaux, moi, c'est sûr que c'est plus là que je connais leur rôle, là, mais faire les signes vitaux, donner de la médication, puis ensuite, on va une infirmière comme soit technicienne ou bachelière qui va ou clinicienne là, qui va gérer le cours du séjour du patient, s'assurer d'évaluer le patient.
Okay. Mais c'est le fun, José, quelqu'un qui est dans ce domaine-là parce qu'on apprend un peu toute la structure et de quelle façon c'est fait. Une infirmière au Québec versus une infirmière dans les autres provinces, c'est quoi la différence? Est-ce que j'imagine que c'est la même formation?
Oui, non, je te dirais, puis je trouve ça intéressant, Yannick, ce que tu dis, parce qu'effectivement, les rôles de l'infirmière encore sont trop méconnu. Fait que je trouve ça le fun aussi de clarifier parce que même nous, des fois, avec les autres professionnels, on est tout mêlé. On ne sait plus l'infirmière, c'est-tu elle qui passe les pilules, c'est-tu elle qui fait le bain aux patients, c'est encore pas assez défini.
Le bain aux patients, ça, je pense que c'est les préposés aux bénéficiaires.
Oui, c'est sûr que c'est un travail d'équipe aussi, là, mais c'est sûr que normalement, c'est les soins de base, c'est plus les préposés aux bénéficiaires, effectivement. Mais pour répondre à ta question, hors Québec, là, au Canada, parce que moi, je pratique dans d'autres provinces et territoires, le rôle est essentiellement le même. C'est sûr que moi, je pratique beaucoup dans les territoires du Nord-Ouest, dans les plus aussi rurales, dans des hôpitaux ruraux. Donc, c'est sûr que le rôle est plus élargi, je dirais.
Okay.
Pour l'infirmière, on a plus de responsabilités. C'est sûr qu'aussi au Québec, on remarque que la relation avec les autres collègues est plus verticale, si on veut, plus hiérarchique, disons, avec les médecins.
Ouais.
Contrairement hors Québec, on voit plus... T'sais, au niveau anglais, c'est plus
les équipes de travail.
Ouais, comme le...
Tout le monde travaille avec une certaine cohérence puis à peu près sur le même pied d'égalité. Là.
Oui, ça va être plus un échange. T'sais, l'infirmière va proposer des solutions, va parler de ses inquiétudes, il va y avoir beaucoup plus d'échanges, je trouve, versus au Québec, c'est encore très vertical ou hiérarchique, là, la relation. Puis l'infirmière, par contre, c'est le rôle, t'sais, moi, c'est ça, j'ai d'autres licences au Canada, puis notre champ d'exercice est le même, là, plus ou moins, là, t'sais, je te dirais que c'est la même... Le même champ de
OK. Puis pourquoi, toi, tu te promènes de province en province, puis tu vas même faire territoire du Nord-Ouest puis le Nord du Québec? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne travailles pas dans les hôpitaux du Québec là, comme une infirmière syndiquée qui travaille tout le temps au même hôpital?
Il y a plusieurs raisons, mais je te dirais que la première, là, quand j'ai commencé, c'est que moi, j'habitais au territoire du Nord-Ouest pour un petit bout, là, mais j'ai pratiqué aussi au Québec, au Saguenay. Là. Bref, là, j'ai travaillé là 4 ans au réseau public, là, dans une urgence. Et puis, j'ai déménagé au territoire du Nord-Ouest. Puis là, ça m'a fait découvrir, dans le fond, la pratique nordique, de quoi différent. J'ai comme sauté un peu dans le vide. Donc là, ça m'a ouvert des portes. Puis, je suis revenue au Québec, 3 enfants en garde partagée. Et là, je me suis frappée au réseau public, la rigidité du réseau. Donc là, moi, c'était comme pas possible pour moi à ce moment-là. Ça, c'est il y a 6 ans. C'était pas possible pour moi de faire mes horaires ou de travailler, de pas être frappée au temps supplémentaire obligatoire. Tu sais, avec 3 jeunes enfants garde partagée, là, c'était comme... Le réseau était pas capable de m'accueillir, si on veut. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du dépannage, là, dans le fond, via une agence pour commencer parce que c'était la seule option au Québec. Mais j'allais quand même là, faire des contrats là, comme... faire du dépannage, dans le fond, au territoire du Nord-Ouest. Là. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à plus vouloir aller voir d'autres places. C'est le goût de l'aventure, le goût d'aider.
On va d'ailleurs en parler, mais est-ce que le réseau au Québec laisse facilement ses infirmières aller travailler ailleurs puis après ça, les accueille à leur retour? Ou ils vous empêchent des fois d'aller travailler ailleurs, puis ils vous mettent peut-être des bâtons dans les roues là, pour revenir à l'hôpital une fois que vous êtes allé ailleurs?
Bien, je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de barrières. C'est très rigide. Mais c'est sûr que, disons, si je veux revenir puis travailler dans le réseau, ils vont m'accueillir.
OK.
Ça, oui. Mais disons que je vais aller faire du dépannage, disons par une agence de placement privé, parce que c'est la seule option au Québec présentement, et que je veux... donc là, je ne peux pas, parce que si je touche au réseau public, j'aimerais mieux pas parler de ça parce que là, il y a des changements, les mesures.
Il n'y a pas de problème.
Ouais, on va,
Christian Dubé va arriver dans ce dossier-là.
<C'est ça. rire>
Parce que Christian Dubé, ce qu'il essaie,
actuellement,
ce qu'il essaie de faire actuellement, puis j'en jasais avec Élodie dans mon show du midi, c'est que là, tu sais, on a le réseau de la santé qui fait affaire avec différentes agences, OK? Bon, ces filles-là puis ces gars-là qui sont des infirmiers, infirmières, des préposés aux bénéficiaires, eux autres, le réseau de la santé tel qu'il était bâti puis ce qu'on leur imposait ne faisait plus leur affaire parce qu'il y avait du travail supplémentaire obligatoire. Ils n'étaient pas capables, comme toi, de régler leurs horaires, ce qui fait en sorte qu'ils sont partis pour les agences pour avoir une qualité de vie. Là, ce que Christian Dubé fait, c'est qu'il essaye d'annuler ces agences-là, ce qui fait en sorte que peut-être que toi, tu vas avoir un avis différent là, au mien, mais dans mon cas, moi, j'ai l'impression que les gars puis les filles qui se sont dit « Non, non, moi, là, les horaires d'hôpitaux, les travailleurs supplémentaires obligatoires, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais pour les agences. » Il y en a qui vont peut-être retourner à l'hôpital, mais il y en a d'autres qui vont tout simplement s'en aller ailleurs. Là.
Non, mais on s'entend, on est infirmière. Là. Fait que des options, on en a vraiment beaucoup.
Ouais.
Fait que tu sais, moi, c'est... Effectivement, les agences de placement, le ministre Dubé veut les enrayer.
Oui, il veut, en tout cas, il veut mettre les bâtons dans les roues des agences de placement.
Oui, et je ne suis pas en désaccord du tout avec ça.
OK.
Moi, dans le fond, ça fait au moins là, 4 ans que je travaille de façon autonome et je ne veux pas être avec une agence de placement privée. Je n'ai pas besoin d'un pimp. Okay. Dans le fond, je ne comprends pas le but de l'agence de placement privée autre que de... booker mes vols, booker... Tu sais, dans le fond, il y a de la job pour moi. Je suis compétente. J'ai mon ordre professionnel. Je paye mes assurances responsabilité. Fait que dans le fond, il n'y a aucune raison pour moi d'avoir une agence de placement qui va juste être un intermédiaire supplémentaire.
Qui va charger sa cote.
Qui va charger, c'est ça. Fait que, mais moi, je comprends que les agences de placement, pour le ministre Dubé, je suis absolument d'accord. Moi, en tant aussi que contribuable, là, je comprends pas qu'on ait des agences de placement privées parce que finalement, eux, ils font juste ramasser l'argent, là, tu sais. Puis placer des gens, mais tu sais, après, quand tu es rendu placé dans l'hôpital, si tu gères ton horaire avec la gestionnaire, tu sais, il n'y a plus de... Donc, moi, ça, je le comprends, mais effectivement, l'agence de placement va répondre à un besoin, à plusieurs besoins. Le besoin de l'infirmière d'avoir des horaires flexibles, d'avoir un meilleur salaire, de voyager, de se déplacer. Donc, ça va répondre à ce besoin-là. Pour l'hôpital aussi, ça va répondre à des besoins parce qu'on a des besoins toujours ponctuels de remplacement en région. Ça va être impossible avec l'exode rural. Je ne sais pas comment on va faire pour avoir 3000 infirmières qui vont déménager à cette île. 3000, j'exagère, mais tu sais, on a besoin d'une façon de faire du dépannage ponctuellement.
Mm-hmm.
Mais là, présentement, on veut enlever les agences de placement, mais sans avoir d'alternative présentement.
Oui. Là, on se rejoint. Donc, toi, tu es infirmière autonome. Fait que tu te fais embaucher de quelle façon?
Bien, en fait, ça dépend. Au Québec, la seule façon, c'est l'agence de placement privée. Donc, moi, je ne vais juste plus travailler en région au Québec parce que ça ne fonctionne pas. Mais pendant un petit bout, je faisais, disons, du gré à gré lorsqu'ils sont hors appel d'offres, quand ils sont en bas de leur liste.
Okay.
Là, ils m'embauchaient comme gré à gré. Mais sinon, hors Québec, comme disons, territoire du Nord-Ouest, en Ontario, Nouvelle-Écosse, donc là, eux, ils ont des programmes de dépannage public. Donc, moi, c'est comme ça que je vais travailler à l'extérieur. Mais, c'est ça. Mais au Québec, dans le fond, là, présentement, moi, je faisais comme du gré à gré. Okay. Donc, là, j'étais embauchée directement là, par le.
Et quand tu fais ton travail de gré à gré puis tu es embauchée directement par l'hôpital, est-ce que ton corps de travail est respecté ou on te met de la pression pour que tu continues une fois que ton chiffre est fini?
Je te dirais que moi, le temps supplémentaire obligatoire, je ne comprends pas ça. Donc, moi, je l'accepte simplement pas.
Okay.
Je te dis, il y a une catastrophe, un avion qui crash, je vais rester.
Oui, la logique. Là.
C'est ça. Mais tu sais, ton corps de travail, ça fait 4 infirmières qui manquent, ça fait 3 mois que tu le sais. C'est pas à moi de rester puis de mettre ma vie de côté pour ça. Mais normalement, c'est sûr que quand je vais à l'extérieur, moi, j'impose rien. Là. Si je vais dépanner, je suis là pour dépanner, je vais faire des nuits, je vais faire les fins de semaine, mais je vais m'engager à faire 5 heures de travail dans ma semaine, je vais faire 5 heures de travail dans ma
c'est
semaine.
C'est ça. Parce que tu es ailleurs. T'sais, tu sais que tu es là pour 1-2 semaines, 1-3 semaines. C'est combien de temps que tu pars quand tu vas travailler ailleurs?
Ça dépend, là, parce que c'est sûr, avec ma garde de mes enfants, mais 1 à 2 semaines.
Tu pars 1 à 2 semaines.
Ouais.
Puis là-dedans, ben, tu peux faire des jours, des soirs, des nuits exactement. Sans aucun problème. Puis après exactement. Ça, tu reviens au Québec. Qu'est-ce que tu constates dans nos hôpitaux au Québec versus ce qui se passe ailleurs? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pire ici qu'ailleurs ou c'est à peu près la même chose? Ça se compare?
Je dirais que c'est sûr que partout, on a des problématiques. Le réseau de la santé, c'est ça va mal partout. Moi, ce que je constate au Québec, c'est qu'il y a plus de rigidité. Beaucoup de bureaucratie, c'est lourd. On peut pas comme juste utiliser notre gros bon sens, des fois. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de maternage aussi pour les infirmières. On est moins reconnus. Il y a plus de... Ouais, il y a moins de reconnaissance, plus de, ben, comme tantôt j'expliquais, la hiérarchie, respecter les règles. Des fois, on se pose pas trop de questions. C'est de même. Mais tu sais, la règle est là pourquoi, on sait pas trop, mais je vais juste la suivre.
Okay. Vous avez l'impression qu'on vous embauche comme des soldats qui n'ont pas nécessairement besoin de réfléchir. C'est faites ce qu'on vous demande et restez dans ce cadre-là.
Je voudrais pas généraliser, mais c'est sûr que je remarque au Québec que l'infirmière, peut-être la valorisation est un petit peu moins présente, puis il y a plus de rigidité.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression, tu sais, quand tu entends le ministre Christian Dubé mettre des choses en place, est-ce que tu as l'impression que les gens qui le conseillent pour mettre certains trucs en place, puis même les autres administrations qui étaient là avant, as-tu l'impression qu'ils jasent avec des gens comme toi, qui travaillent sur le plancher, puis qui auraient peut-être des idées qui pourraient être mise en place qui ferait en sorte que les infirmiers et infirmières au Québec, ça irait pas mal mieux dans leur travail?
C'est sûr que personnellement, je vois quand même une bonne volonté. Avec le ministre Dubé, je vois qu'il y a des choses qui changent. On a un petit peu plus le goût d'utiliser notre gros bon sens.
Ouais.
Je constate que le ministre Dubé se déplace. J'ai parlé directement avec lui-même. T'sais, il veut parler avec les associations d'infirmières. T'sais, il y a une volonté qui est là. C'est sûr qu'on s'entend qu'il est comptable à la base. C'est un gros ministère là, qui s'occupe.
C'est le plus gros, en fait. C'est le plus gros qu'on a au Québec. Là. C'est 50 % de l'argent qu'on envoie en impôt au Québec s'en va directement au ministère de la Santé. C'est le plus gros, en fait.
Mm-hmm. Non, exactement. Donc, c'est sûr, c'est un travail qui est assez colossal. salle. Ouais. Mais c'est sûr que je peux pas dire que je trouve que ça serait pas bénéficiant d'aller chercher plus l'opinion des infirmières sur le plancher ou des gens qui sont vraiment là, tu sais, parce que...
Puis par rapport à ce qui se passe ailleurs, est-ce que c'est la même chose? T'as-tu l'impression que c'est les mêmes enjeux autant au Québec que dans les territoires du Nord-Ouest ou dans le Grand Nord?
C'est différent. Tu sais, comme disons, c'est seulement au Québec que je vois le temps supplémentaire obligatoire. Moi, dans le fond, je pratique dans 6 provinces et territoires au Canada.
Ouais.
Puis le seul endroit où est-ce que je vois du temps supplémentaire obligatoire, c'est au Québec. Puis c'est pas une fois par jamais. C'est à toutes les semaines, à tous les jours. Ça ouais. dépend où, quel milieu, c'est sûr. Mais c'est comme la norme. C'est normal. Puis tu sais, c'est un peu une relation toxique, tu sais. C'est comme si c'est accepté, c'est normal. Tu sais, là, t'as accepté la semaine passée de rester 3 heures de plus. Bon, mais là, l'autre semaine d'après, tu vas rester le corps complet. Puis là, c'est tellement rendu ancré que ça fait partie de la normale, tu sais. Puis moi, je parle de ça avec mes collègues ouais. hors Québec, puis tout le monde n'en revient pas. Ils me croient pas.
Okay.
Ils me disent, ouais, ça se peut pas.
Mais pourquoi ailleurs, ils n'ont pas besoin de faire de TSO, puis ici, il y a du TSO? Est-ce qu'on a la raison? C'est-tu en raison du manque de main-d'œuvre? C'est-tu en raison que quand on regarde la démographie au Canada, le Québec étant une vieille province qui fait en sorte qu'il y ait plus de monde dans les hôpitaux nécessairement parce qu'il y a plus de bobos avec l'âge? C'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'ici, ça fonctionne comme ça, puis ailleurs, ça n'existe pas?
En fait, ce qui se passe ailleurs, c'est que les problèmes du réseau ne sont pas sur les épaules des infirmières. Dans le fond, s'ils n'ont pas le personnel, ils vont carrément fermer des lits. Okay. Ils ne vont pas offrir le service. Mais présentement, dans plusieurs milieux que je travaille, moi, ce que je constate, c'est qu'on n'est plus en mesure d'offrir le service, mais on l'offre quand même. La qualité, je ne peux pas dire à quel point qu'elle a. Des fois oui, des fois moins. Mais c'est que dans le fond, le problème s'est rendu sur l'épaule de l'infirmière, que là, elle va combler les trous, que là, tous les vendredis soirs, elle sait que quand c'est sa fin de semaine, il va falloir qu'elle reste, qu'elle fasse un 4 heures, même un 8 heures de plus.
Ouais.
Puis dans le fond, c'est comme sur nos épaules aux infirmières, quand finalement, ben, on n'est plus capable de l'offrir le service. Ou tu sais, il y a des décisions différentes qui devraient se prendre aussi. Là.
C'est quoi les difficultés de nos infirmières et infirmiers au Québec? Moi, je me rappelle, puis j'étais dans la salle, il y avait une prise de sang qui était supposée d'être faite. L'infirmière arrive, puis c'est une infirmière qui était là depuis plusieurs heures. C'était la naissance de mon gars. Puis l'infirmière était là depuis plusieurs heures. Puis à un moment donné, elle est arrivée pour prendre la prise de sang. Puis elle dit, je ne serai pas capable, je shake trop, je suis trop fatigué, je vais aller chercher ma collègue. Tu sais, ça arrive-tu couramment, ça? Parce que moi, ça m'avait sauté aux yeux, tu sais, pauvre fille, ça fait 15 heures qu'elle est là, puis elle travaille, elle veut faire une prise de sang, mais elle shake trop. C'est-tu courant, ça, ou ben c'est anecdotique, ce qui m'est arrivé, là?
De dire que là, d'arriver, puis de dire, ben là, je serais peut-être pas capable de faire la prise de sang, puis j'avoue que c'est une situation qui m'aurait un peu choquée,
ouais.
mais de faire des corps de travail où est-ce qu'on va pas aux toilettes, où est-ce qu'on a beaucoup trop de patients, qu'on va se cacher pour pleurer, parce que j'aimerais ça aller le voir, mon monsieur de 80 ans, qui est seul dans sa civière, puis ça fait 4 heures qu'il est là, puis j'ai même pas le temps d'aller lui adresser la parole, de savoir que je vais pas finir mon corps de travail, puis il va falloir que je reste, puis je vais me le faire dire 10 minutes avant de finir. Ben c'est ça, c'est la réalité. La surcharge de travail-là. Puis là, oui, il y a l'histoire qu'on reste obligatoire, mais il y a aussi l'histoire qu'on est en plan de contingence, donc on a plus de patients. Puis l'infirmière, c'est comme si tout va dans sa cour. Le patient tombe, je vais aller l'aider. La famille appelle, je vais répondre pour leur parler. Il faudrait que j'aie porté mon patient aux radios, puis là, il y a le préposé n'est pas disponible, mais je vais y aller. Tu sais, à un moment donné, c'est que là, il y a cette charge-là aussi. Là. Okay. Donc,
il peut-tu y avoir des erreurs? Puis je te donne un exemple comme ça. Il y a des dossiers qui sont là. Le patient est allergique à quelque chose. Finalement, il y a un médicament qui est administré puis il ne pouvait pas avoir ce médicament-là. C'est un autre. Ça arrive-tu des erreurs? Parce que les filles puis les gars qui font ce métier-là, des fois, sont en TSO puis ils ont mal lu ou ils ont tout simplement pas lu. Là.
Absolument.
Ouais.
Vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont sous-déclarés. Aussi, mais des erreurs, il y en a, puis il y en a vraiment plusieurs. Puis ça, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que si je suis obligée de rester, ça fait 3 fois que je suis obligée de rester cette semaine, j'ai pas pris de pause, j'ai beaucoup trop de patients, mais si je fais une erreur, c'est ma faute.
Ouais.
Il y a personne qui va prendre le blâme. L'hôpital prendra... Non, parce que si je m'en vais en cours avec ça, ben l'ordre, puis qu'est-ce qu'ils vont me dire, c'est bien, il fallait que tu le dises que c'était trop. Fait que là, ça, c'est sur ma responsabilité. Moi, j'essaie de sauver le réseau. Je donne ce que je peux, mais si je fais une erreur, je suis punie. Donc, effectivement, des erreurs, il y en arrive, j'en vois. Je suis inquiète.
OK. Tu sais, nous autres, moi, je n'ai pas ce métier-là. Je connais pas ce métier-là. C'est advenant le cas où vous êtes blâmé, c'est quoi? C'est des journées de suspension? C'est des semaines, des mois? Est-ce que vous pourriez carrément perdre votre licence en erreur, en raison d'une erreur qui n'était pas intentionnelle, mais qui a été faite?
Bien, c'est sûr que ça va être une grosse investigation. Là, on s'entend. Là, qu'est-ce qu'ils vont aussi, là, qu'est-ce qu'on va regarder, c'est est-ce que l'infirmière moyenne aurait pris la même décision que toi ou est-ce que c'était vraiment hors de ce que tu aurais dû faire, comme utiliser ton jugement différemment? Ou mais oui, ça peut être une restriction de permis. Ça dépend. Là, est-ce que il y a une plainte qui a été portée par la famille à ton ordre? Est-ce que c'est ton hôpital qui finalement veut te sanctionner pour X raisons? Il y a plusieurs causes différentes, ça dépend. Là, mais oui, notre licence peut être restreinte ou suspendue ou même on peut perdre notre licence.
C'est quoi les plus grosses erreurs que toi, tu as constatées, si tu peux nous le mentionner, sans nécessairement nommer des endroits ou tout ça, là, ce qui t'a vraiment choqué en disant « mais ça n'a pas de bon sens que ça arrive en 2022-2023 ». C'est quelque chose que tu te dis, mais voyons, ça se peut pas, faut pas que ça arrive.
Il y en a plusieurs, là. T'sais, c'est sûr que des erreurs d'identification du patient, le mauvais patient qui s'en va au mauvais examen, ça peut être.
T'as-tu vu le gars, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, tu sais, j'en parle, là, mais c'était dans le secteur de Montréal, le gars se fait opérer. Il est en salle de réveil, il était supposé se réveiller au 8e étage, il se réveille au 3e étage où il y a personne. T'es comme dans Walking Dead. Là. Tu te réveilles, tu te lèves, puis il n'y a pas personne sur l'étage. Tu te dis, je vais essayer de trouver la force de me rendre jusqu'au bureau des infirmières. Il arrive au bureau des infirmières, il n'y a personne. Je veux dire, comment que ça peut arriver? Là? Ce qu'on a compris, c'est que le brancardier, il a mélangé un 3 et un 8. Je sais pas si c'était quelqu'un qui venait d'ici ou quelqu'un qui venait d'arriver d'ailleurs, mais il a mélangé le 3 et le 8, puis il a pas mis le patient à la bonne place. Toi, tu as déjà constaté ça? Ça, c'était médiatisé. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont pas médiatisés.
Il y en a plein qu'on n'entend juste pas parler. Là, mais oui, là, ils ont emmené mon patient en écho. Mais là, tu sais, souvent, ils vont se rendre compte, rendu à l'écho, que finalement, c'est pas le bon patient, là, parce qu'il a pas la jambe enflée, puis le patient, il se pose des questions aussi. Là.
Ouais.
Mais tu sais, c'est parce que là, c'est le brancardier qui s'est déplacé pour rien, c'est le temps qui a été pris pour ça. Il y a des erreurs aussi qui ont préjudice, là, mais des erreurs comme. Il faut toujours que notre jugement soit vraiment présent, il faut qu'on soit concentré, mais il y a tellement de bruit, tellement de demandes, les téléphones qui sonnent. Disons, tu as un patient, les médicaments sont represcrits, il faut tout que tu les transcrives, il faut que tu regardes, il faut que tu trouves ta médication pour lui administrer comme il faut. Mais avec la lourdeur de nos patients actuels, il y en a beaucoup de médicaments, il y a des doses différentes, les patients ne savent pas leurs médicaments. Donc, des erreurs d'administration de médicaments, il y en a beaucoup. Ça, c'est vraiment assez fréquent. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup d'erreurs aussi qu'on ne se rend même pas compte, là, que finalement, elles ne sont même pas constatées. Mais l'infirmière est bien intentionnée. T'sais, moi, je ne veux pas dire qu'il y a de la négligence et que les infirmières, ils n'utilisent pas leur jugement, ils ne sont pas intelligents. Vraiment pas. C'est que c'est impossible de bien travailler dans ces conditions-là.
Hey, je pose une question bien personnelle, Marianne, puis je te mets en contexte. Là. Moi, j'étais dans un hôpital où j'accompagnais quelqu'un pendant la nuit, puis je veillais sur cette personne-là. Puis à un moment donné, cette personne-là avait besoin de peser sur le piton pour avoir de l'aide qui sonne au bureau des infirmières, de ce que je comprends. Là. Mm-hmm. Puis l'infirmière n'arrivait pas, ce qui fait en sorte que je me suis levé, puis j'allais me rendre vers le bureau des infirmières. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des infirmières avec du personnel médical, puis des médecins qui était en train d'essayer de réanimer quelqu'un, puis la personne est décédée. Puis moi, j'ai vu des infirmières pleurer. Tu sais, je veux dire, attends un peu, là. Ces gens-là, là, ils travaillent pas comme dans un abattoir. Tu sais, c'est des infirmières, c'est des gens humains. Puis ils sont habitués de voir des gens décédés, puis ils pleurent encore en 2016, mettons. Là. Je me rappelle pas si c'était dans ces années-là, mais je trouvais ça beau. Ton rapport, toi, avec la mort, c'est quoi exactement?
Je te dirais que moi, mon expérience, c'est surtout à l'urgence. Là. Donc, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on est face à la mort, mais c'est sûr que c'est on a plus souvent des drames, disons. Je te dirais que quand on est en situation d'urgence, moi, à ce moment-là, je deviens comme vraiment calme.
Okay.
À l'intérieur de moi, dans ma tête, je vais vraiment réfléchir, je vais être très pragmatique, si on veut, rationnel. Donc, je ne serai pas émotive du tout.
C'est la dose d'adrénaline, en fait, qui arrive en toi. Puis là, tu sens quand même plus en contrôle.
Exactement. Okay. J'ai quelque chose à faire. On y va. Je sais les étapes, les priorités. Je te dirais, moi, où est-ce que je trouve ça difficile, c'est quand la famille, quand je vois la famille, quand je réalise qu'il y a un contexte, que c'est un patient qui est un père de famille, qui ouais. C'est là où est-ce que je deviens plus émotive. Uh-huh. Mais moi, sans être très sensationnaliste, qu'est-ce qui va vraiment me toucher des fois? Ça va être aussi banal que d'aller voir le monsieur de 85 ans qui est à sa civière puis qui me dit, « Madame, tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que je ne retournerai jamais chez moi.
Mm-hmm. »
Que je ne serais pas capable de retourner chez moi dans mon appartement. J'étais tellement bien, fière de moi, mais là... Puis tu sais, c'est un diagnostic, ça peut être autant aussi banal qu'une pneumonie, ou, mais que finalement, ce patient-là perd toute son autonomie aujourd'hui. Là. C'est un gros deuil. Mais ça, c'est pas rare pour moi de pleurer même avec les patients. Puis je m'en cache pas, puis je suis pas mal avec ça. Tu sais, sans dire que ça va m'empêcher de travailler et tout ça, mais tu sais, je vais vraiment vivre des moments des fois assez intenses.
Mais moi, c'est ce qui m'avait frappé. Puis c'est pas que je suis sans cœur, mais je vais te donner un autre exemple pour essayer d'imager ce que je pensais que c'était. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps dans la restauration. Tu sais, à un moment donné, tu sers les gens du mieux que tu peux, tu essaies d'être humain, chaleureux et tout ça, mais à un moment donné, les gens n'ont plus de visage. Tu viens qu'à te dire, OK, ben j'ai passé une belle soirée, j'ai rencontré des gens intéressants et tout ça, mais je peux les recroiser comme la semaine d'après, puis je me rendrai pas compte que c'était mon client du jeudi, tu sais. Mais de voir à cet hôpital-là que l'individu est malheureusement décédé, puis j'ai vu les infirmières avoir de la peine, je me suis dit, c'est un peu, là, ces gens-là, c'est des gens qui sont des gens d'exception, tu sais. Je te dis pas ça parce que tu es là, j'en parle régulièrement de nos infirmiers et infirmières du Québec. J'ai mon chum Yves qui est venu il y a là, une couple de mois, que j'ai eu le plaisir de jaser en entrevue, tu sais. Puis j'y avais dit, tu sais, vous faites un job exceptionnel. Tu sais, oui, au niveau technique, mais au niveau de la charge mentale. Puis vous êtes psychologue aussi en jasant avec ces individus-là. Vous devez prendre un peu de temps avec ces gens-là. Puis ça, je veux dire, c'est le genre de choses qu'on ne s'imagine pas quand on est à l'extérieur des hôpitaux. Tu sais, les gens disent tout le temps, ah, ben là, on sait bien, eux autres, leurs conditions de travail, à quel point c'est important. Mais tant aussi longtemps que tu n'as pas rentré dans le système de santé puis tu n'as pas vu comment ça se passe, tu peux pas voir exactement ce que c'est que votre travail. Puis de voir que vous considérez chaque patient comme un individu avec qui vous devez passer du temps. Tu me parles de ton monsieur de plus de 80 ans qui se rend compte, tu sais, qui fait un constat, là, qui ne retournera plus jamais chez eux. T'imagines-tu le deuil?
Mm-hmm.
Puis juste le fait que vous passez du temps avec cet individu-là, ça doit juste y faire du bien. Là.
Mm-hmm.
Des fois, on pense à ça des fois, puis ça nous... ça me fait voir une autre partie de votre travail que je ne connaissais pas.
Non.
La COVID, tu l'as vécu comment, Marianne?
La COVID, je l'ai vécu comment? C'est lourd.
Deux ans.
Ouais, non, mais je te dirais que moi, j'ai un peu travaillé dans un centre de... Il appelait ça... bref, les gens qui avaient la COVID, les personnes âgées qui avaient la COVID en résidence,
ouais.
qui venaient à cet endroit-là comme pour vivre leur COVID, là, parce qu'ils étaient contagieux. Ouais, une zone chaude, là, mais de patients où est-ce que il n'y avait pas besoin de soins aigus, là, hospitalisés, qui n'étaient pas non plus des patients qu'on allait réanimer, disons. Là.
Mm-hmm.
Donc, moi, j'ai travaillé dans ce centre-là, au fort là, de la COVID, avant la vaccination. Donc, c'était des patients qui arrivaient... La majorité ou une grande partie n'en mourait. C'était des personnes âgées qui étaient souvent déjà hypothéquées, mais il y en a aussi qui étaient plus autonomes. Là. Donc, moi, ça a été un peu ça au début, mon expérience. C'est sûr que moi, mon expérience aussi avec les voyages, parce que tu sais ce que je fais avec mon dépannage et tout ça, ben, c'est sûr que c'était pas la même expérience. C'était plus difficile, plus compliqué. Je continuais quand même à faire du dépannage hors Québec, puis au Québec aussi, là, parce que j'étais travailleur essentiel. Puis, je te dirais que mon expérience avec la COVID, c'est vraiment, comme je l'ai dit, lourde. Tout ce que ça nous demande de plus, ça l'a vraiment écœuré le monde. Si on veut, là, les infirmières ou le personnel à l'hôpital, c'est que tout devient plus compliqué. Les procédures supplémentaires, les étapes de plus.
Okay. Mais nous autres, ce qu'on nous a rapporté quand on posait des questions au merveilleux monde de la santé, ce qu'on nous disait, c'est que quelqu'un qui était atteint de la COVID, mettons aux soins intensifs, là, mobilisait 3 individus plutôt que 1.
Mm-hmm.
Est-ce que c'était ça?
Bien, là, c'est moi, j'étais pas aux soins intensifs, mais absolument.
3 individus plutôt que 1.
Oh oui, c'est beaucoup plus
1.
Compliqué.
Est-ce que toi, qui as fait plusieurs provinces, là, quand il y a eu cette crise-là, est-ce que tu as constaté qu'il y avait une manière différente de travailler dans toutes les provinces ou ils travaillaient pas mal toutes pareilles? C'était les mêmes techniques?
Je te dirais que ça se ressemblait beaucoup. Je trouve qu'au Québec, on a pris des décisions plus rapides sur certaines choses que les autres provinces, mais c'était la majorité des bonnes décisions. Puis moi, je te dirais que c'est pas mal la même chose un peu partout, là.
C'était la même affaire partout.
Ça se ressemblait beaucoup, hein. Les procédures, oui, c'est pas mal la même chose. Ouais.
Puis pour ce qui est des décès, y avait-tu plus de décès au Québec versus les autres provinces? Parce que, tu sais, au Québec, on l'a vu, là, nous autres, on a eu un épisode où la décision qui avait été prise de prendre les gens qui étaient malades avec COVID dans les hôpitaux, on voulait faire de la place, on a envoyé ces gens-là dans les CHSLD. Ça a été extrêmement catastrophique. Puis ça a fait en sorte qu'il y a énormément de gens qui ont été atteints de la COVID, puis par la suite qui sont malheureusement décédés. Plus de 5000 personnes qui sont décédées. T'sais, après ça, avec le temps, les autres provinces ont monté aussi. Mais c'était assez particulier. Quand nous autres, on voyait ça, en tant qu'observateur, moi, je ne le vivais pas de l'intérieur. Là. Toi, c'était que tu fasses ta job au Québec ou en Ontario, c'était la même job. Mais de notre côté, en tant qu'observateur extérieur, on se disait, mais mon Dieu, c'est Québec, ça a l'air donc bien particulier.
Oui, non, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est sûr que c'est vraiment l'histoire avec les RPA, les CHSLD, c'est là que ça a vraiment été très difficile au Québec. Là. Mais mon expérience personnelle, c'est dur à dire parce que je ne l'ai pas constaté moi-même. Là.
OK. On s'amuse un peu. Moi, j'ai vu de belles images là, que tu as réalisées en voyage. Tu étais sur un gros bateau. C'est quoi? C'est un genre de carrière-là où une infirmière est embauchée pour aller sur un bateau puis aller en Antarctique.
Ouais, là, mets-toi pas, là.
En Antarctique, ouais.
Au pôle sud.
Pôle sud.
Non, c'est ça. Dans le fond, c'était comme. C'était une croisière. En fait, c'est ça. Moi, je fais plein d'affaires, là. Fait que ça, on avait trouvé ça. Dans le fond, c'était des compagnies qui font des croisières en Antarctique, dans le fond, là. Donc, il y avait besoin d'une équipe médicale. Puis, on est bénévole, là, on s'entend, là, quand on va là. Mais, tu sais, on s'entend que le voyage est payé, là.
OK, c'est un voyage bénévole.
Oui, c'est ça. C'est pas payant, là.
OK. Fait que tout est payé, mettons, l'avion, la chambre, tout ça, mais contre le fait que vous devez travailler sur place. C'est comme un géo médical maintenant.
C'est ça.
C'était ça une affaire pour toi puis les gens qui t'accompagnaient?
Dans le fond, il y avait seulement les autres, c'est les passagers, puis sinon il y avait l'équipe aussi là, qui faisait les aventures. Là, mais nous, on avait la même expérience. C'est juste que tu sais, on donnait des pilules pour le mal de cœur. Puis on était là aussi si, mettons, quelqu'un tombait. Ou, tu sais, c'est sûr, c'est des croisières assez dispendieuses. Donc, c'est des personnes souvent plus âgées. Là, donc, mais c'est sûr qu'en même temps, là, on les envoyait pas sur les icebergs s'ils n'étaient pas capables de marcher. Là,
puis le médecin, était-tu payé?
Non. C'est les bénévoles.
Les infirmières. Fait que tout le monde était bénévole. Puis là, vous avez été là-bas, tu étais sur bateau pendant combien de temps?
C'est 10 jours, dans le fond. Fait que tu arrives en Argentine. Puis c'est vraiment là, comme Ushuaia, là, vraiment le plus au sud de l'Argentine. Puis dans le fond, à partir de là, tu prends un bateau, c'est 2 jours et demi en mer pour traverser en Antarctique. Rendu en Antarctique, on fait certains points, là, mais tu sais, la météo, ça change tellement rapidement. Puis vraiment, là, tu peux jamais savoir vraiment un voyage à l'autre comment ça va être, là, mais on faisait des sorties en Zodiac là, dès qu'on pouvait. On a même sauté dans le... Dans l'océan, c'était vraiment... c'était particulier.
C'est quoi, moi, j'aurais été là demain matin, mais me baigner dans l'eau glacée, c'est impossible. Il y avait des manchots?
Ah ouais, il y en a, des manchots, puis pas des pingouins, là, pas même affaire. Les pingouins...
C'est quoi la différence entre les deux?
OK. Les manchots sont au pôle sud.
Ouais.
Ils ne volent pas. Puis les pingouins sont au pôle nord, puis ils volent.
Okay.
C'est parce qu'en anglais, on dit penguin pour les manchots.
OK.
Fait que là, c'est pour ça que c'est mélangeant. Mais bref, c'est des manchots qu'on a vus, eux qui volent pas.
Ça a l'air que les paysages sont extraordinaires.
Ah, vraiment, les glaciers, les icebergs. Ah non, c'est vraiment beau. Nous, on était en novembre, donc là, c'est proche du solstice. Là, donc, c'est presque 24 heures de clarté, parce que c'est l'inverse de nous.
Ouais.
Les paysages, c'est magnifique. Là, c'est vraiment beau. La nourriture, super bonne. Puis, ils donnent aussi ils ont un auditorium, donc ils donnent de la formation. C'est vraiment des gens, c'est de haute qualité. Là. L'équipage, là, on a des recherchistes, on a des chercheurs, je veux dire. C'est des scientifiques, on a vraiment des géologues, il y a vraiment une équipe extraordinaire, fait que c'est très enrichissant.
Ben oui, c'est une belle expérience.
Ouais,
puis est-ce que là, tu as été là pendant combien de temps exactement? 2 semaines?
C'était 10 jours, dans le fond, c'est comme 9 jours en mer, mais c'est à peu près 2 semaines, là, parce que le temps de voyager là-bas, revenir, pendant un petit peu profiter aussi en Argentine.
Fait que vous faites votre corps de travail, c'est quoi, corps de jour, corps de soir? Comment ça fonctionne?
Non, on est 24 heures, c'est comme l'équipe médicale, là, fait que c'était une infirmière, un médecin. Donc, on est comme toujours disponible.
Il y avait combien de personnes sur le bateau?
C'était 150 passagers.
Puis, y a-tu eu des problèmes?
Il n'y a pas eu de problème, mais le voyage avant nous, il y a eu un problème, un Zodiac qui a renversé avec 2 décès. Ouais, grosse hypothermie, des patients réanimés pendant des heures. Ouais, mais non, nous, il n'y a pas eu de.
Puis, est-ce que c'était le premier voyage de ce genre-là, à contrat, que tu faisais là, aussi exceptionnel?
C'est la première fois que j'allais, oui, en Antarctique. Moi, je travaille seulement au Canada, là, donc je fais rien de hors Canada. Là. Donc, c'était comme la première expérience comme ça. Mais on a l'intention de retourner là, justement au Groenland où on regardait aussi pour le nord de la Norvège. Ouais.
Okay. Ouais. Hey, tu vas régulièrement faire des contrats dans le nord du Québec. Est-ce que les clientèles sont plus difficiles que les clientèles qu'on peut avoir à Québec, mettons?
C'est pas au nord du Québec, par contre, que je travaille, mais je travaille sur la Côte-Nord ou Abitibi, tout ça. Puis je travaille au nord du Canada, territoire du Nord-Ouest.
Oui.
C'est sûr qu'il y a des problématiques différentes, là, des problèmes sociaux, là, comme on connaît.
Mais... Est-ce que tu dois, tu sais, parce que, je veux dire, toi, tu travailles dans les soins et tout ça, est-ce que tu dois laisser tomber un peu ton, ton œil de fille qui vient de Québec, puis on, tu sais, on élève nos enfants de telle façon, puis on doit faire ci, ça? Est-ce que tu dois faire abstraction de ça? Tu sais, on juge tout dans notre tête, là.
Ben oui, absolument, mais c'est de... Oui, t'as absolument raison. Puis tu sais, je pense que de reconnaître ses biais, première des choses, là. Mais tu sais, dans le fond, qui dit que moi j'ai raison, tu sais? Fait que j'essaie toujours un peu de me dire ça. Puis tu sais, on est face à des gens vulnérables. Ouais. Et si on les juge, ça va aider qui, dans le fond?
Exact.
Ils vont revenir, de toute façon, ils vont revenir encore plus malades. Fait que j'essaie vraiment... Là, c'est sûr, c'est naturel, c'est humain, ça m'arrive, je suis pas parfaite. Mais vraiment, j'essaie le plus possible de me dire que... je ne sais pas ce qu'ils vivent, comment que je peux les aider. Ils sont en souffrance. Quand tu viens consulter à l'hôpital, là, c'est probablement la pire journée de ta vie.
Ouais.
Fait que je pense que déjà d'avoir ça en tête puis de se dire, regarde, je vais essayer d'aider la personne. Parce que des fois, je sais comme des fois, il y en a qui vont sentir, oh, je suis débordée, le patient pose en même beaucoup de questions. Ou, mais en même temps, le patient a besoin de réponses. Il ne sait pas, il se sent, il est vulnérable. Il sait, moi, je vais au garage, là, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe là, fait que je suis la personne la plus vulnérable là, quand je suis là. Fait que moi, je veux me faire rassurer. J'ai des questions qui sont sûrement niaiseuses pour le garage.
Ben, c'est ça que je disais à ma blonde. Pose le moins de questions possible parce que si tu poses des questions, il va vouloir te charger plus cher.
Ouais, c'est ça. Mais là, à l'hôpital, on ne charge pas. Fait que là, c'est pas. Ouais. Ouais, okay. Je suis d'accord.
Mais c'est ça, tu sais, moi j'avais un chum qui a fait des missions comme flic là, dans certains endroits du Canada, un peu plus au nord. Puis il disait, tu sais, Yann, il y a des endroits où le soleil se couche à peine. Fait que les enfants, ils peuvent être dehors à 1h du matin. Puis il fallait qu'il fasse justement, tu sais, laisser tomber là, son idée que les enfants, il faut qu'ils se couchent à 19h30, puis faut qu'ils se lèvent à 6h du matin. Okay. Là-bas, il n'y avait comme pas d'horaire, là. C'est particulier, là.
Ben oui, maintenant, au territoire du Nord-Ouest, justement, une place parce que je travaille assez régulièrement, Inuvik.
Ouais.
Fait que c'est vraiment comme proche de c'est dans l'Arctique, là, canadien. Donc, là-bas, c'est ça, j'étais là cet été, justement, là, en juillet. Puis, c'est 24 heures de clarté, là, à 2 heures du matin. Nous, on était à l'hôtel. Hôtel, là, c'est pas l'hôtel 5 étoiles, là.
Non.
Je vais te le dire tout de suite, là, c'est pas chic-chic. Mais bref, tu sais, c'est confortable. Mais on était, notre hôtel, en arrière du terrain de baseball. Donc, à 2h30 du matin, aucune exagération, c'était la game de baseball. Là. La grosse game de baseball, le cri, le monde, il était une centaine. Là. Fait que, c'est des problèmes différents. T'sais, l'été, les gens, justement, ils viennent consulter à 3h du matin pour une verrue. Puis après ça, fait que c'est un peu n'importe de quand. Eux, pour eux, il n'y a pas vraiment de différence. Ils se couchent moins, ils dorment moins. Puis l'hiver, ben là, ça va être comme en hibernation. Là. C'est noir. Les gens, il y a plus de dépression.
Puis toi, quand tu es là-bas, tu fais comment pour bien dormir puis être top shape? Là? Parce que nous autres, c'est assez clair. Quand il fait noir, on dort. Ouais. Puis quand il fait clair, on se réveille. Ouais. Eux autres, le soleil se couche pas pendant un certain temps.
Oui, non, effectivement. Ben, j'ai un loup là, pour mes yeux. On ferme bien les rideaux. Ils sont eux là-bas, ils ont tous des rideaux vraiment blackout. Donc, comment
ils vont dire? Oui, les rideaux qui empêchent la lumière de passer, mettons.
Opaque. Puis, mais moi, j'ai pas de difficulté. Comme je peux être en Europe il y a 3 jours, revenir ici, puis moi, je m'ajuste là, vraiment rapidement.
T'as pas le fameux jet lag? Là.
Non, vraiment pas, non. Puis, tu sais, aussi, je travaille de nuit. Après ça, 3 jours après, je peux être 2 jours. Même le jour après, tu sais, j'ai vraiment pas, je m'adapte vraiment facilement.
Ouais.
Mais tu sais, j'ai pas un horaire non plus là, pendant 3 mois de nuit, puis après ça, il faut que je sois de jour, tu sais. Fait que moi, j'ai jamais de routine.
Mm-hmm.
Donc, je suis comme habituée, je m'adapte.
Mais ça doit être franchement enrichissant de pouvoir faire ce métier-là, puis d'y aller de province en province, puis de voir d'autres clientèles aussi, tu sais. Ça fait de toi quelqu'un qui a plus, j'imagine, tu sais, qui a plus d'apprentissage que quelqu'un qui reste tout le temps, mettons, je sais pas, moi, je dis ça, là, mettons, à l'enfant Jésus. Là, ça fait 15 ans qu'elle travaille à l'Enfant Jésus. Cette personne-là n'a pas vu toutes les facettes de son métier. Là.
Absolument. C'est sûr qu'il y a aussi le fait que la personne qui va faire 15 ans qui est dans un même hôpital, la personne va vraiment connaître le fonctionnement de son hôpital, de mm-hmm. son urgence, va connaître les patients, la limite. Va... Fait que, tu sais, il y a une force aussi à ce niveau-là. Mais c'est sûr que de mon expérience personnelle, de moi, avec moi, qu'est-ce que je fais, c'est sûr que ça m'aide à voir plein de façons de pratiquer différentes, de me questionner toujours. Ce que j'aime dire aussi, c'est que j'agrandis ma zone de confort. Tu sais, pour moi, toujours me mettre dans des situations un peu inconfortables, ça fait ouais. que ma zone de confort est vraiment large. Donc, pour être inconfortable, ça m'en prend beaucoup, là, tu sais.
Ouais. Mais est-ce que tu décrivais tantôt quand il y avait une situation d'urgence réelle puis tout le monde était comme extrêmement stressé, toi, tu étais dans ta zone. Ouais. J'imagine que ça a un lien avec tout ce que tu peux vivre à la grandeur du Canada quand tu travailles.
Bien, c'est sûr que ça m'aide vraiment, mais je te dirais qu'en général, dans une salle d'urgence, les gens ont quand même cette attitude-là aussi. Là, tu sais, mm-hmm. Quand on est à l'hôpital, quand tu es dans ton uniforme d'infirmière, la majorité des gens, même face à une urgence, on va être capable d'être calme, de bien réagir. Mais c'est sûr que d'avoir vu beaucoup de choses différentes, des situations rocambolesques, ou tu sais, plus, ben, c'est sûr que ça m'aide à plus... Comment on dit ça?
Voir peut-être la... Pas avoir un champ de vision peut-être rétréci, tu vois, comme peut-être plus large.
Big picture, oui, c'est ça de... Je cherche un mot, mais c'est pas grave. Là. Mais
ça, c'est non, parce que tu travailles en anglais et en français.
Ouais, c'est hein? ça. Je vais m'aller dans mes deux langues. Là.
Ben oui.
Relativiser.
Ouais, hey, relativiser, voilà, c'est le mot que tu cherchais. On parlait d'ordre professionnel tantôt, ouais. Hors d'onde. Là. Comment ouais. ça fonctionne, votre ordre professionnel?
Notre ordre professionnel, dans le fond, c'est toutes les infirmières là, qui veulent pratiquer, infirmières techniciennes ou bachelières, là, cliniciennes ouais. au Québec ou partout, dans le fond, dans les autres provinces et territoires aussi. On a besoin, dans le fond, d'avoir une licence. Mm-hmm. Puis la licence, dans le fond, c'est géré par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Puis l'Ordre, dans le fond, eux, leur rôle, c'est de protéger le public. Donc, s'assurer que les infirmières ont la bonne formation, qu'ils pratiquent dans les règles de l'art. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai pas le choix là, d'avoir une licence là, pour pouvoir pratiquer comme infirmière. J'ai besoin de faire de la formation continue. Ça va être aussi là, vérifié par l'ordre. J'ai une assurance responsabilité aussi. Donc, avec mon autre professionnel, si, disons, je fais une erreur, puis là, il y a une plainte, puis on va en cours, bien là, je vais avoir des... je vais être assurée là, avec mon okay. autre professionnel avec ça.
Mais l'ordre, est-ce que c'est le syndicat?
Non, pas du tout. C'est vraiment différent. Dans le fond, l'ordre va vraiment être là pour protéger le public, contrôler, si on veut, la profession,
ouais.
Mettre les lignes directrices, dire c'est quoi la formation de l'infirmière au Québec. Le syndicat, ça va être pour les droits des infirmières, ou, t'sais, leurs conditions de travail.
Oui, les travailleurs, ouais.
C'est ça. Puis le syndicat, il y en a okay. au Québec, des différents. Là,
parce mais... qu'on dirait que les ordres, mettons l'ordre des médecins, là, je veux dire, j'ai ouais, plus l'impression qu'ils sont... oui, c'est ça, le collège des médecins. J'ai plus l'impression qu'ils sont du bord des médecins que du bord du public. Là. Non? C'est peut-être une impression que j'ai parce que je ne suis pas à l'intérieur du système de santé, mais
ouais.
très souvent, tu sais, ce qu'on voit, c'est qu'il tend à essayer le plus possible de limiter ce que vous autres, vous pourriez faire. Là, je parle de l'ancienne façon de faire. Mettons, on remonte à là, 20 ans. J'ai l'impression qu'il essayait plus de protéger les médecins puis les pratiques que les médecins avaient. Puis il essayait, tu sais, les infirmières, comme tu me parlais tout à l'heure, les super infirmières, là.
Mm-hmm.
Je pense que le Collège des médecins s'était opposé pendant plusieurs années à avoir ce type d'infirmières-là. Là.
Oui, il y a une certaine réticence, là. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, si je regarde les médecins versus les infirmières, c'est sûr que moi, ce que je constate, c'est que au niveau des infirmières, peut-être il y a un peu moins de bienveillance. Ou, tu sais, la pratique en général, tu sais, on va avoir plus tendance à trouver l'erreur de l'autre ou à, tu sais, on va être moins... on va peut-être moins se tenir, disons. Mm-hmm. Si je regarde mes collègues médecins, ou est-ce que, tu sais, c'est rare qu'on va entendre un médecin parler de « Ah, comment ça que mon collègue a prescrit telle affaire? » ou... Donc, c'est sûr que je vois un peu ça. Mais là, par rapport au collège, puis l'ordre...
Mais on avait vu, je pense que, on avait un épisode avec le Doc Mayou, là, tu sais, qui avait prescrit des médicaments, qui a fait en sorte qu'on a regardé ça, mais on a dit, il me semble que la dose est pas mal trop élevée comparativement à ce qui était recommandé et tout ça. Lui, il était des années à se battre avec le Collège des médecins. Mais bref, voilà, j'en sais plus maintenant sur le Collège des médecins puis l'Ordre des infirmières. Au niveau des salaires, les infirmières puis les infirmiers du Québec, sont-ils assez payés?
Yannick, t'aurais pas pu me préparer à ces questions.
Ben non, jamais, voyons donc.
Sont-ils assez payés? C'est ouais. sûr que... ben moi, je trouve qu'au Québec, on est un peu gratteux. Okay. Tu sais, comme, disons, au Québec, on va avoir... je sais pas le nombre exact, mais c'est comme 15 échelons, disons, là, pour dire que l'infirmière elle devient son top salarial. Là. Fait que mm-hmm. on économise sur l'infirmière pendant 15 ans, tu sais, pour dire qu'à un moment donné, elle va avoir son top salarial. Après ça, tu sais, on a tout ce qui prime. Tu sais, on n'a pas comme un salaire qui est élevé. C'est, oui, si tu fais de l'urgence, si tu fais de nuit, si t'es de garde, ouais. là, tu vas avoir des primes qui vont payer plus, mais tu sais, ton salaire horaire, il n'est pas tant élevé que ça. Moi, ce que je trouve aussi vraiment au Québec, ce que je trouve qui est vraiment plate, c'est qu'on est beaucoup dans la punition. Tu sais, comme disons, le temps double. Donc, tu sais, comme si on fait du temps supplémentaire, soit obligatoire ou volontaire, on est payé à temps et demi, normalement. Mais là, dernièrement, là, parce qu'on est vraiment en gros manque de personnel, on a décidé de payer à temps double pour certains corps de travail. Puis, qu'est-ce qui arrive au Québec, c'est qu'on va payer à temps double ton corps de travail, mais... faut pas que pendant 7 jours avant, tu aies pris un congé de maladie. Faut pas que 7 jours après, tu aies pris un congé de maladie. Faut pas que tu aies fait un pet de travers, sinon je te l'enlève ton temps double.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on complexifie tout le temps ce genre de choses-là?
Je me le pose vraiment la question. On dirait qu'il y a une tendance à la punition. Ouais. Parce que, tu sais, hors Québec, c'est du temps double. Automatiquement.
Okay.
Tu sais d'avance. Tu fais ton horaire un an d'avance. Tu le sais, tes corps de travail, tu es à temps partiel. Tu fais un 3 jours semaine, mais tu décides volontairement de rajouter un corps de travail dans 3 mois. Mais ton corps de travail que tu rajoutes va être à temps double. Puis même si tu prends une maladie ou non, t'es à temps double, puis point à la ligne. Il y a comme, on dirait, du grattage ou de l'économie qui essaie de se faire. Puis ça, je trouve ça dommage.
OK. Puis tu me disais qu'il y avait 15 échelons qui déterminent votre échelle
salariale. Plusieurs échelons. Faudrait que je regarde là, encore, okay. là, mais il y a plusieurs échelons pour dire qu'on devient notre top salarial. Fait que c'est vraiment, fait que l'infirmière qui commence, là, c'est vraiment pas très payant. Là.
OK. Puis le top salarial pour une infirmière, ça peut ressembler à quoi? C'est autour de 80 à peu près? De mémoire?
80 000 par année.
80 000,
oui. Oui, à peu près. Là. Je ne sais pas si ça dépend, technicienne, bachelière, ouais. Est-ce que tu es infirmière dans des soins critiques, est-ce que tu es de nuit. Tu peux même, tu sais, 60 à 100 000, je te dirais, okay. la moyenne de salaire.
Ce qui est quand même un bon salaire. Là. Quand on réussit à avoir 100 000 par année, c'est quand même un bon salaire. Moi, ce qui me marque à chaque fois, Marianne, puis peut-être que tu sauras, j'imagine que tu as la réponse, là. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte, quand j'ai commencé, moi, sur le marché du travail, là, j'avais pas nécessairement les meilleurs chiffres. Là. Je commençais, j'avais le dépanneur de nuit, mettons. Je pouvais travailler au dépanneur de nuit parce qu'il n'y a pas grand monde qui voulait travailler de nuit. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des infirmières qui sont là depuis 10, 15 ans font des nuits en même temps qu'il y a de jeunes infirmières aussi qui font des nuits, puis on donne pas... T'sais, les plus anciens n'ont pas les meilleurs chiffres. Est-ce que c'est une problématique ou c'est juste qu'on veut répartir les forces sur plusieurs corps de travail? C'est-à-dire qu'une infirmière qui a 15 ans d'expérience, la nuit, c'est extrêmement pertinent pour la nouvelle infirmière qui commence.
C'est intéressant ce que tu apportes. Moi, je pense qu'une des choses qui nuit beaucoup aux infirmières, c'est qu'on veut tout être égal. Tu sais, le syndicat, justement, il n'y a pas de « Ah, tu fais plus que l'autre, je vais te donner plus. » On peut comme pas utiliser ça, parce que c'est tellement gros. Puis le syndicat, c'est tellement gros qu'il faut comme tout le monde soit pareil. Moi, ça, je trouve ça vraiment malheureux. Comme, tu sais, disons, comme tu l'expliques, une infirmière qui va être à l'urgence, moi, c'est ce que je connais. Le parcours qualifiant de l'infirmière à l'urgence, c'est 2 ans. C'est pour dire, tu commences à l'urgence, là, tu vas faire toutes les heures, tu vas finalement finir par le triage. Ça va te prendre 2 ans pour te rendre là. Rendu que tu as fait ton 2 ans-là, tu n'as rien de plus. Tu sais, tu étais une infirmière spécialisée à l'urgence, mais tu n'auras rien de plus. Tu as la même prime que l'infirmière qui commence à l'urgence, comme toi, qu'elle ne fait pas toutes les heures du tout. Puis en plus, toi, il va falloir que tu formes les autres infirmières. Oui, tu as une petite prime quand tu vas former, mais quand même. Puis on va avoir beaucoup plus de responsabilités sur nos épaules, mais on n'a rien de plus. Mais là, je me suis perdue. Excuse-moi, si tu me parlais de...
En fait, ce que je te demandais, c'est... Là, on est parti de 15 échelons pour ce qui est du salaire des infirmières et tout ça. Après ça, on a dit la répartition des forces. Tu sais, une infirmière qui a 15 ans d'expérience, travailler de nuit, versus une infirmière qui vient de rentrer, travaille de nuit aussi.
Ouais.
Moi, j'avais toujours l'impression que, tu sais, ceux qui étaient là, qui avaient fait leur place, avaient les meilleurs chiffres. Puis ceux qui commençaient dans le domaine étaient un peu répartis aux endroits où on avait besoin.
Oui, mais non, mais c'est ça. On peut juste... faire ça parce qu'il faut que tout le monde soit égal, que c'est par l'ancienneté, mais non, effectivement, les rotations, ça, on en voit. C'est, je pense que c'est effectivement un bon point pour la répartition de l'expérience.
Ouais.
Mais moi, ce que je vois aussi hors Québec, là, c'est quand même ça. Là. Les gens vont faire de la rotation jour-nuit, mais ils ont leurs horaires d'avance. Tu fais des 12 heures, donc tu viens pas à travailler 5 jours par semaine, tu es toujours là, puis finalement, tu es obligé de rester, fait que tu en fais 6 par semaine. Mm-hmm. Puis, je pense que oui, il y a l'histoire de répartir les forces, mais aussi, ça fait
T'aimes-tu mieux travailler à l'extérieur ou t'aimes mieux travailler à Québec?
La pratique du Québec, je te dirais que c'est pas ma pratique préférée.
OK.
C'est sûr que j'aime mieux pratiquer en français.
Ouais.
Mais pour la rigidité, la valorisation de l'infirmière qui est peut-être moins là,
ouais.
C'est des raisons qui font que j'aime peut-être un peu moins pratiquer au Québec, mais je suis québécoise, je parle français, je suis contente d'aider aussi.
Est-ce que tu as confiance que peut-être un jour ça va changer? Que le Québec va être, avec ses infirmières, pareil comme le reste du Canada, un peu plus agencé avec, avec le reste du Canada?
Moi, je suis vraiment optimiste.
Ouais.
Je pense que tout le monde a un peu sa responsabilité là-dedans, autant les gens de devenir plus au courant de leur santé, donc de venir consulter moins quand c'est moins nécessaire, autant pour les infirmières d'arrêter d'accepter l'inacceptable, de comprendre enfin qu'on a tellement de portes ouvertes puis qu'on peut juste faire le saut. Il y a beaucoup de mes collègues qui me disent souvent « Oui, Marianne, je comprends pas, tu es tellement chanceuse. » Je dis « Oui, mais c'est accessible à tout le monde. » Mais c'est difficile. Je te dis pas que
ils disent que tu es chanceuse. Il y en a combien qui iraient travailler dans le Grand Nord parmi tous ceux qui disent que tu es chanceuse?
C'est ça, tu sais, ça demande, c'est sûr que c'est pas facile, tu sais, mais on s'entend que même, j'ai pas besoin d'aller dans le Grand Nord, là, on est infirmière, là, on a le gros bout du bâton, mais on le prend pas.
Ouais.
Mais oui, je suis optimiste, je pense qu'il y a une volonté politique, tu sais, on le voit, moi, personnellement, je trouve qu'avec le ministre Dubé, tu sais, je vois qu'il y a des changements, on utilise plus notre gros bon sens, tu sais, il y a des belles choses qui s'en viennent, mais c'est pas parfait. Je suis optimiste, mais moi, je me dis, ça peut juste pas continuer comme ça. Je suis inquiète, comme que je te disais tantôt.
Quelqu'un qui nous écoute dans la voiture, là, puis qui est en phase là, de déterminer ce qu'elle veut faire dans la vie, puis ce qu'elle veut pas faire, est-ce que toi, tu conseilles à toutes les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont remplis d'empathie, qui aimeraient ça travailler dans le système de santé, est-ce que tu leur conseilles encore ce métier-là?
Absolument. Être infirmier ou infirmière, c'est pour tout le monde. Comme je l'ai dit un petit peu tantôt, tu sais, tu peux travailler dans des écoles, tu peux travailler à l'hôpital, tu peux voyager. Ça s'adresse tellement à plein de gens, plein de catégories différentes. Puis si tu prends le contrôle de ta carrière, mais t'es pas obligé là, de subir, dans le fond, tous les problèmes du réseau. Là. T'sais, pour moi, là, c'est pas à moi de mettre le réseau sur mes épaules à moi puis de mettre ma vie de côté. Là, ouais.
Marianne Leblon, ça a été un plaisir de discuter avec toi. C'était pas si pire que ça. Je t'ai dit que c'était une discussion autour d'un café, mais je pense que t'as pas pris une gorgée.
Tu m'as pas laissé le temps.
T'avais beaucoup de questions. Ça a bien été, t'aimais ça?
Oui, merci.
Bon, ben, tu vas être obligé de revenir à un moment donné.
Okay.
Fait que je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Ça a été un plaisir. Puis, ben, merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as mentionnées. Vous êtes sur les ondes de Boulevard. On fait une courte pause et on revient dans quelques secondes.
Marceau, le soir. Le soir.
Leclerc Communication, ben ça, c'est nous autres. On est à la recherche d'un développeur PHP. Pas un animateur radio qui parle à la radio comme moi, là, mais un développeur PHP. Tu connais Cake PHP, t'as quelques heures à nous consacrer d'ici la refonte de nos plateformes web. Ben, on cherche quelqu'un pour faire de la maintenance et des petits projets à la pige. Postule à carrière@leclercommunication.ca. C'était la personne qu'on recherche. Au plaisir de te rencontrer.
Entrepreneurs et futurs entrepreneurs, vous vous lancez dans une nouvelle aventure entrepreneuriale? Joignez-vous à la communauté Ose Entreprendre. Exprimez votre passion, vivez l'expérience d'un jury, voire remportez une bourse en plus d'élargir votre réseau. Faites comme nos coprésidentes d'honneur du défi Ose Entreprendre Capitale Nationale, Rachel Séguin et Andrea Gomez, d'Omi Laboratoire. Vous aussi, dites « Moi, j'ose entreprendre ». Déposez votre candidature d'ici le 14 mars, 16h, à oseentreprendre.québec. Une invitation Boulevard 102.1.
Envie de repousser vos limites? C'est possible grâce à Dion Sport Saint-Raymond. Passez au magasin de Saint-Raymond et voyez comment vous pourriez dominer la nature. Le VTT Can-Am Outlander a tout ce qu'il vous faut pour rehausser vos aventures. Et obtenez jusqu'à 500$ de rabais sur certains modèles 2022 sélectionnés. Visitez Dion Sport Saint-Raymond à Saint-Raymond pour prendre la clé des champs sur un véhicule Can-Am conçu pour vous transporter partout. Visitez votre concessionnaire autorisé BRP pour plus de détails.
1-1-0-0-0-7-4-2-0-1.
82-68-99-49-84.
55-80-96-36-01.
La Régie du bâtiment du Québec, c'est beaucoup plus que des numéros de licence d'entrepreneur. C'est avant tout un organisme qui veille à la protection du public en contribuant à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. assurez-vous que votre entrepreneur a sa licence.
Savais-tu qu'il existe des services spécialisés pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi? Libre Emploi, centre conseil situé dans Limoilou, peut t'aider à te mettre en valeur. Spécialisé entre autres dans les CV tendances, Libre Emploi t'accompagne dans la préparation d'entrevues et la rédaction de lettres de présentation convaincantes. La majorité des services sont gratuits et ce, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Visite libreemploi.qc.ca et suis-nous sur les réseaux sociaux. Libre Emploi, le coup de pouce qui mène à la poignée de main.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Vous souhaitez louer dans le secteur de Beauport? Vous devez visiter les condos locatifs La Station. Vous profiterez d'aires communes comme un lounge, un gym et une salle de billard. Vous êtes un amoureux de Beauport? Alors optez pour un bail à long terme à conditions avantageuses. Détails immeubleroussin.com.
Mercado.fm, c'est la nouvelle adresse qui regroupe une tonne d'offres locales à prix imbattable. Découvrez une multitude d'entreprises et marchands québécois. Cliquez sur nos offres pour en connaître davantage et profitez du meilleur prix chaque fois.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 250 $ pour seulement 125 $ applicable sur les services chez Kennedy Pneus et Mécaniques. Ou encore, obtenez un séjour de 2 nuitées à 50% de rabais dans l'un des 4 chalets Tourisma disponibles.
Un marché de proximité où l'achat local est une priorité. Mercado.fm. Découvrez, cliquez, profitez.
Boulevard 102. La radio rock de Québec. Boulevard. Le rock, ça nous coule dans les veines. Et on partage cette passion-là avec vous. Mettez ça sur le poste, assoyez-vous confortablement et profitez du meilleur rock à Québec. Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Merci d'être bien branché sur les ondes de Boulevard 102.1. On est le 28 février, donc demain, janvier, février, mars. On est déjà le mois de mars, on lâche pas, le printemps s'en vient, les amis. On regarde la température à l'extérieur, c'est pas nécessairement évident, mais bon, on lâche pas. Dans quelques semaines, qui sait, peut-être que la marmotte ressortira pour dire finalement, ça va être plus hâtif que d'autres choses, le printemps. Mais bref, sinon, ben, on endure la température qu'on a. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On nous annonce entre 10 et 20 cm pour ce soir. Pour une petite partie de la nuit. Par la suite, demain, n'ayez crainte, ce sera une belle journée ensoleillée. Donc, alternance de soleil et nuages pour ce qui est de demain, avec un maximum avoisinant les plus 1 degré. Pour ce qui est de jeudi, ce sera de la neige, maximum de moins 1. Vendredi, ce sera une belle journée ensoleillée, avec un maximum de moins 1. Et si je regarde pour le week-end, c'est souvent ce qui nous intéresse. Donc, une alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de moins 4 degrés. Et dimanche, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de moins 2. Ce soir, le Canadien qui affronte les Sharks de San Jose. Donc, c'est à 22h30. C'est très tard, mais bref, je ne sais pas si vous serez à l'écoute. Moi, je serai certainement à l'écoute, mais d'après moi, je devrais m'endormir sur la game. Très hâte de voir ce match-là. Je prévois une victoire de Montréal 3-1 sur les Sharks. Donc, voilà, sachez-le d'avance. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, puis on se rejase demain à 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi. Salut! Bye-bye!
Marceau, le soir. Le soir.
Vous aimeriez obtenir votre pardon au waiver, mais c'est difficile financièrement? Aucun souci. Identité Québec offre le financement 12 mois sans intérêt. IdentitéQuébec.ca. Votre dossier, notre spécialité.
Du jamais vu chez LaVue.ca. Du 28 février au 4 mars, on vous offre la monture gratuite. Oui, oui, même sur les grandes marques. Examen disponible ou apportez votre prescription chez LaVue.ca. Détails sur place, Véronique Michaud, opticienne.
De retour et rechargé, le Salon de l'Auto célèbre ses 40 ans. Zone tuning, zone arcade, zone Corvette, essais routiers de voitures électriques, simulateurs de course, collection privée de plus de 30 millions de dollars, Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Visitez le salon de l'auto présentant le plus de marques au Canada. Du 7 au 12 mars, Exposité, en collaboration avec la Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaires, CA Québec, TVA, Journal de Québec, Boulevard 102.1.
Tant qu'à avoir payé pour entretenir votre tignasse, rentabilisez votre investissement en traitant vos problèmes capillaires. Au Salon Ross, des solutions pour la perte ou vos problèmes de cheveux, on en a. Compléments capillaires, mésothérapie, PRP, soins des cheveux et bien plus. SalonRoss.ca. Des cheveux pour toujours.
Samedi et dimanche, Boulevard 102.1 vous plonge dans l'univers musical de Matt Marcotte et Reg Laplanche. Volume à Blanche. Un show storyteller avec deux gars qui en ont pas mal à raconter.
Moi et Reg, on jase un peu, mais on est une des émissions où on raconte plus d'anecdotes, mais où, ultimement, on jase le moins.
Ouais, c'est vrai. On en a eu des rencontres avec des artistes, des histoires, des anecdotes. C'est ce qu'on veut partager avec vous.
Ne manquez pas le volume à Blanche. Les samedis et dimanches, 16h. Avec Reg Laplanche et Matt Marcotte.
Boulevard 102.1.
Bernière Auto, votre centre spécialisé en voitures d'occasion depuis 33 ans. Chez Bernière Auto, on achète et on vend des autos d'occasion. En plus, on est expert en crédit alternatif. Peu importe votre crédit, obtenez une voiture certifiée tout en rétablissant votre crédit. Détails au bernièreauto.com.
Podcast. OK, les filles, je suis prêt pour le podcast.
OK, parfait. Ça va parler de quoi?
Ben, on se racontait des affaires, on va...
Denis, ça va parler de quoi?
Je sais pas, de tout, de rien. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. On saute dans le vide. Sautez avec nous autres.
Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102.1. À écouter en ondes tous les mercredis dès 19h et sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et le BLVD.fm.
Une présentation d'accommodation Chaloux. Avec plus de 1000 sortes de bières de microbrasserie et de grandes marques, c'est chez eux que vous trouverez le plus grand choix au meilleur prix. Saint-Émile, Beauport et au Grand Marché de Québec. Accommodationchaloux.com.
Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté. Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle, parlée sur 5 continents qui nous ressemblent et nous rassemblent. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français.
Profitez d'un mois gratuit sur nos appartements deux chambres et plus au MU. Découvrez nos impressionnantes aires de vie et trouvez un chez-soi à votre image parmi nos 86